l'émission très chaude ce soir. En effet, ce soir, en prime time, vous avez diffusé un sacré match entre l'Espagne et le Brésil. On fera un gros plan sur un joueur qui va très certainement nous causer quelques soucis en Ligue des Champions dans une petite quinzaine de jours. On en dit un petit peu plus juste après une présentation express de tous mes copains et nos copines de la soirée. Le président, c'est Raymond Domenech. Dans le Ville-Peuple, il y a Karine Galli, il y a Olivier Rouillet, il y a Bernard Lyon. C'est son fameux proverbe qu'il n'aura pas le temps de débiter. Et enfin, un poignardeur qui sourit, c'est pas dans votre contrat, faites gaffe Damien. Bonsoir monsieur, dame.
Bonsoir. Bonsoir
amitié sportive. Voilà, toujours un petit décalage, t'inquiète, très beau. Virginie, bonsoir ma chère Virginie, comment ça va?
Bonsoir mémé, ça va très bien.
Ça va, vous êtes...
Le petit chaperon rouge.
Ah, c'est vrai, ouais.
Regardez que
le méchant loup.
Et vous, vous êtes le loup-garou.
Le méchant loup, avec des lunettes.
Ça devrait bien se passer.
Ça va pas du tout cette histoire. Ça ne va pas du tout.
Non, mais c'est à la guerrière de l'info ce soir. Hein, hein, ok.
Le loup-garou est en ruine, c'est malade.
Espagne-Brésil ce soir, donc on vous l'a diffusé en prime time sur la chaîne L'Équipe, le show Yamine Lamal vu contre le Brésil. Lamine Yamal, j'ai dit quoi Ouais d'accord, bon, Lamine Yamal. Contre le Brésil, le Barcelonais était ovationné par le stade Bernabéu, le stade du Real. Ce gamin de 16 ans, on va en reparler car le 10 avril prochain, c'est-à-dire dans 15 jours, eh bien son club, le Barça, rencontre en Ligue des Champions le Paris Saint-Germain. Alors est-il la menace numéro uno pour Paris en C1? Juste avant de répondre à cette question, voici son match contre le Brésil, montage à Philibourg. Alors, ce Yamal est-il la menace numéro uno pour Paris en C1? Il a répondu oui, c'est Raymond Domenech, vous êtes président, vous ouvrez les débats. Pourquoi oui? Pourquoi vous dites oui? Par rapport à ce qu'on a vu, ça semble évident, mais...
Oui, ça semble évident, mais ça semble évident aussi par rapport à ce qu'on voit de la défense parisienne. Sur ce côté gauche, c'est compliqué en ce moment. Même dans l'espace, même à l'intérieur, c'est compliqué. Il a cette capacité, on l'a vu, à aller vite, à enchaîner, à venir provoquer... Et à jouer juste derrière, c'est pas du n'importe quoi. Donc oui, c'est un joueur qui a toutes les qualités, qui est exceptionnel, qui a un avenir devant lui. Et le problème, c'est que l'avenir, son prochain avenir, il passe devant le PSG. Et dans à un poste où, en opposition, il n'aura pas les points forts du jeu parisien. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu inquiet. Et
occupé,
je dis,
ouais.
Il peut faire mal, il peut faire très très mal.
Je crois que l'ensemble des chroniqueurs, pas l'ensemble, mais une bonne partie a dit non, pas forcément. Damien, Karine, Bernard, je crois que c'était plutôt non. Vous aviez un nom, vous, la menace numéro 1.
Je pense que la menace, c'est Lewandowski, toujours.
Ouais.
Quand on arrive à ce niveau de compétition, en Ligue des Champions, les grands joueurs les plus expérimentés sont souvent décisifs. On l'a vu en 8e de finale, il a été décisif à l'aller au retour contre Naples. J'adore hein, Yamal, il est assez extraordinaire, mais c'est une chose, c'est bien d'ailleurs hein, d'être bon en amical avec sa sélection et il y a de la pression, mais un quart de finale de Ligue des Champions sur un match aller-retour, c'est encore autre chose, c'est une autre dimension. Moi, je l'avais vu contre Naples, notamment. Enfin, j'ai vu les deux matchs, mais notamment le retour où il était déjà attendu et il n'était pas à ce niveau de performance-là, moins libéré dans le jeu. Alors, je suis d'accord avec Raymond, c'est pas le point fort du PSG, le côté gauche de la défense. Mais la défense centrale, c'est pas non plus un des points forts. Et Lewandowski, même s'il vit pas la meilleure saison de sa vie, il est quand même à 13 buts en Liga, 3 en Ligue des Champions. Et dans ces moments importants de la saison, je redoute qu'il réponde présent.
Bernard et Karine, c'est pour les mêmes raisons ?
Moi, j'avais mis Lewandowski, mais j'avais mis aussi le milieu de terrain pour le coup. Parce que moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que du côté du PSG, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Pour l'instant, Zaïre Emery n'est pas revenu à son très bon niveau d'avant blessure. Vitinha est en train de monter en puissance, mais bon, ça reste que Vitinha. Et il y a le troisième larron du milieu de terrain. Donc forcément,
ça pourrait être Ruiz aujourd'hui.
Voilà, je trouve que le milieu de terrain de l'Espagne, du Barça, peut vraiment gêner les Parisiens. On sait l'importance du milieu de terrain. Donc voilà, il y avait Lewandowski. En plus, moi, je suis totalement fan de Lewandowski, mais je trouve que c'est surtout au milieu de terrain que ça va jouer, et c'est ce secteur-là en particulier qui m'inquiète.
Là, ça confronte finalement, ça analyse les 11 contre 11, on les plaque, il y a les zones de collision, et donc finalement, Lewandowski pour la charnière, ça peut être une menace. Vous, il y a d'autres choses que vous avez repérées?
Moi, pour deux raisons différentes, parce que je suis complètement émerveillé par ce joueur, comme Raymond, comme tout le monde, mais je suis époustouflé par sa première saison à ce niveau. Il n'a que 16 ans. Il en est déjà contre le Brésil à son 45e match de la saison. Je trouve ça absolument surréaliste pour un joueur de son âge, surtout quand on sait que tu n'as pas fini tes croissances à cet âge-là. Et donc je me dis, j'ose espérer qu'il va pas rien lui arriver d'ici cette confrontation-là, et qu'il ne va pas caler, ce qui serait tout à fait humain d'ici la fin de la saison. Et la deuxième raison, c'est que pour moi, la menace numéro 1 du PSG, c'est le PSG. Parce que quand on regarde l'histoire du Paris Saint-Germain, avant ces matchs-là, il arrive toujours quelque chose. Il y a toujours un joueur qui se blesse. Alors déjà, ils ont
pas cette saison,
perdre.
Bernard.
Non, mais sauf que là, ils viennent de perdre Barcola. Alors j'espère qu'il sera rétabli, mais ils ont perdu Barcola. Le PSG, à chaque fois qu'ils arrivent dans ces matchs-là, il leur arrive toujours quelque chose aux Parisiens. Donc je me dis, la menace numéro 1 pour le PSG, c'est le PSG. Le PSG.
Vous avez dit un nom clé, Virginie Saint-Cilly, il y a un joueur du Paris Saint-Germain qui tente un contre-la-montre à 15 jours de PSG-Barça.
C'est lui, c'est Bradley Barcola. Le seul Parisien à être rentré blessé de cette trêve. Il est touché derrière une cuisse, il a été touché avec les Bleuets lors du match amical contre la Côte d'Ivoire. L'ailier souffre d'une lésion musculaire confirmée par des examens supplémentaires. Le compte à rebours est donc lancé, pour tenter d'être opérationnel. On le rappelle, le 10 avril prochain pour ce quart de finale aller contre le Barça.
Oui, je t'ai fait un bon teasing.
Maintenez vos déclarations, Olivier, vous êtes solidaire avec le président. Pour vous, ce petit Yamal, c'est la menace numéro
1. Mais bien sûr qu'il a une influence prépondérante dans ce match. C'est impressionnant ce qu'il fait avec le ballon. Quand vous voyez la qualité des ballons qu'il donne de l'extérieur du pied, qui est un geste compliqué.
Ah, c'est drôle parce que vous retenez plus le sens de la passe que son dribble.
Ah oui, mais
il a les deux en plus.
Son dribble, la façon dont il est vivace, c'est naturel pour moi. Moi, ce que je mets en avant, c'est la qualité de ses passes de l'extérieur du pied, et il en fait souvent. Et elles sont dangereuses à chaque fois. Et en plus, c'est quelqu'un qui est réaliste, qui est simple dans son jeu, parce que tomber sur un mec qui, effectivement, de temps en temps, part dans des dribbles, etc., à l'image de Vinicius, par exemple. Et quand il le faut, il est juste.
Ouais.
Et il est simple.
C'est vrai.
On le voit sur le pénalty de Carvajal. C'est lui qui donne le ballon. En première période, il a un superbe extérieur du pied qui s'en va. Et tu vois bien la course du ballon. Le gardien ne peut jamais intervenir. Et ça, c'est hyper dangereux. Lewandowski, moi, je suis moins sûr que toi. Je l'ai vu encore là hier soir face à la
Pays de Galles.
Je trouve quand même que il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui s'enfuit chez Lewandowski. Alors je ne sais pas quoi. Il est moins devant le but. En tout cas avec la sélection.
Mais il vit pas la meilleure période de sa vie.
Non, je suis d'accord. Même trois jours avant, il avait été meilleur, mais pareil, quand même assez loin du but. Il n'avait pas marqué. Pourtant que la Pologne avait marqué pas mal de buts et il n'a pas été présent comme buteur. Il y a quelque chose qui me vient. Alors que ce gamin, tu te rends compte, c'est la façon dont il influence le jeu, de la façon dont il pèse sur les défenses adverses, et surtout ce qui est hyper extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'il a le ballon, chaque fois, il tente quelque chose. Et ça,
celui qui sera attendu, ça sera Lewandowski. Si le petit, il réussit un match superbe, ça sera grandiose. S'il passe à côté, on lui en tiendra par rigueur. C'est Lewandowski, la star de l'équipe en attaque. Ah, et c'est lui qui doit porter
ça. Ça
et c'est lui qui a toujours aussi.
Lewandowski sera d'autant plus performant que Yamal sera performant. Parce que quand il, comme il va dynamiter les défenses, on l'a vu, Lewandowski, il est souvent maintenant à la retombée. Il est derrière, il se met toujours au deuxième poteau. Il profite des situations que les autres vont créer. Et ça, il est. Il,
le chasseur.
Il peut
quoi.
Être vraiment. Oui,
chasseur,
c'est vraiment. Il n'a plus cette puissance pour aller en profondeur, ce qu'il faisait avant. Mais il est toujours là dans les 18 mètres. Et si l'autre déborde, centre, parce que ce que dit Olivier est vrai, il ne centre pas n'importe comment.
Ah non, non,
je
ne
voudrais pas le comparer à quelques autres joueurs qui vont très vite, qui débordent.
Et qui balancent.
Un
ancien du FC Barcelone.
Voilà, lui, jamais. Non, lui, on a l'impression qu'il regarde, il sait ce qu'il va faire. Hein. Derrière, il s'assure par quelque chose.
Yamal est le 7e meilleur dribbleur d'Europe. Ce chiffre est arrêté au mois de février. Ça pourrait éventuellement, le classement pourrait influer. Puis, il est impliqué par match sur 5 tirs. En fait, ça, c'est, on va dire, cette influence offensive. Chaque fois qu'il joue en moyenne, donc il provoque 5 tirs pour son équipe. Raymond, lors du match là, qu'on a diffusé ce soir en prime time, il a croisé Beraldo. On vous a monté quelques séquences. Donc dans 15 jours, il y a le match. Beraldo, il a pris des infos, comment on arrive à se régler, et puis même plus largement, comment on arrive à défendre sur un pur gaucher comme ça, qui peut dribbler, qui peut accélérer. Il a beaucoup de cordes à son arc, ce petit gars.
Il y a une certitude, c'est qu'on ne peut pas le laisser en contre un.
Déjà.
Il faut déjà que Berardo ne joue pas arrière-gauche. Ça, c'est la priorité, parce que sinon, il y aura quelques problèmes.
Mais, Beraldo, hein.
Beraldo, oui, j'ai dit.
Non, Bérard, mais je ne sais pas.
Il ne pourra pas, je veux dire, un contre un. Il y a peu de joueurs, il y a peu de défenseurs qui pourront résister. Parce que le problème d'un défenseur, c'est qu'il faut qu'il fasse un sans faute. La moindre fois où il passe, l'attaquant, il est gagnant. Mmh. Et il a gagné le match. Donc avec lui, on sait qu'à un moment ou un autre, si on le laisse, c'est comme quand Mbappé est bien, si on le laisse en un contre un avec quelqu'un dans la vitesse, voilà, on sait qu'il y aura le danger. Et là, on est dans la même situation, il y aura le danger, mais... J'aime bien rajouter en plus, parce que lui, il dribble et derrière, il fait quelque chose qui est utile. Et en plus, il marque. Il est capable de marquer lui-même.
Lionel...
Juste une précision.
Oui, allez-y.
Pour Bernard.
Bernard.
Oui, à juste titre.
Bernard 69.
69. Parce que ils nous font la politique des 17, des 16 ans et le Barça. Ils en ont eu 4. Ils ont eu Ansu Fati déjà, qui avait commencé, c'était un phénomène. Ouais. Et il a disparu.
Il a eu les deux retours.
Mais oui,
Gavi, ils ont tous joué à 16, 17 ans, 40, 50 matchs. Et on voit où ils en sont.
Ouais.
Donc je ne lui souhaite pas la même chose.
C'est aussi un choix imposé par les circonstances. Ils ne peuvent pas recruter, ils sont obligés de dégraisser. Donc
non, mais tu n'es pas obligé de les faire jouer 50 matchs.
Tu te rends compte ?
Tu n'es pas obligé de les faire jouer tous les matchs.
Le mois de mars, il a déjà fait 45 matchs.
Ouais, c'est beaucoup. C'est énorme.
Il a 16 ans, c'est sa première saison au premier niveau.
Ils ont un peu de monde en stock quand même. Ferran Torres, Joao Félix. Là, le Barça, même s'ils ont des soucis financiers... Ils peuvent le mettre un peu à l'herbage, comme dirait
Raymond. Après championnat,
pour lui, quoi.
Après, c'est vrai qu'il a réussi une telle saison que il a carré Joao Félix, par exemple.
Oui, mais eux, ils ont l'exemple de ce qui s'est passé avant. Oui. Ansu Fati, Pedri, Gavi. J'ai dit, tu les uses. Ils sont performants, c'est sûr, mais tu les perds.
Le mot de la fin sur ce phénomène Yamal dont on a parlé ce soir pour Lionel Messi au soir de son 8e Ballon d'Or. Il disait ceci: Haaland, Mbappé, Vinicius sont les joueurs des années à venir, mais Lamine Yamal, qui est très jeune et qui joue déjà un rôle important au FC Barcelone, qui joue peut-être trop suite à nos discussions du soir, se battra sûrement aussi pour le Ballon d'Or en football. Fin de citation. Passons à la deuxième discussion du soir. Nous allons franchir la case Stop But. Qui a marqué le plus beau but du mois de mars en sélection, Virginie? Il y a un premier prétendant qui a joué ce soir en prime time et vous allez nous l'annoncer.
Tenez, on parlait de Lamine Yamal, c'est lui qui le sert, Daniel Olmo, à la 36e minute. C'est le but du break. C'est le but du break contre le Brésil. Il temporise avant de lâcher un petit point à Beraldo. Il élimine Guimarães et puis il enchaîne avec sa frappe. Tout est absolument parfait dans cette action. Ni le Parisien ni l'ancien Lyonnais n'ont pu faire quoi que ce soit.
Alors, face à Dani Olmo.
Pas d'accord avec ce que dit. Ah, pardon.
Excusez-moi. Face à
Dani... Il débute à la télévision, là. Faut le pardonner.
Face à Dani Olmo, mes petits, voilà, il y a du lourd. Les nommés sont en image. À mauvais souvenir, samedi soir à Lyon, Florian Wirtz, un but en 7 secondes lors de France-Allemagne, on s'en souvient. La combinaison est magnifique. Autre choix, à présent, lors d'Espagne-Colombie joué à Wembley. Attention, Daniel Munoz débarque au deuxième poteau.
C'est fabuleux.
Bon.
Ah oui, c'est vrai.
Une contre-attaque initiée et conclue par le Belge Yuri Tielemans lors d'Angleterre-Belgique. C'est son deuxième but de la saison. Admirez au passage la passe fouettée de l'extérieur. C'est le thème du soir de Lukaku. Autre but entre l'Allemagne et le Pays-Bas. C'est Maximilian Mittelstadt, joueur de Stuttgart, qui va décrocher une sacrée praline. Et enfin, on terminera par un artiste, le geste, lors d'Algérie, Afrique du Sud, on l'a découvert avec stupéfaction, c'est le but incroyable de Yacine Benzia. Alors, quel est votre choix, mes amis? Olmo, premier de cordée, ou les autres suivants? Habillage, but de légende, but incroyable, on y va. Karine, vous me dites quel joueur?
Je crois que j'ai changé d'avis.
Ah, mais c'est pas grave.
J'étais sur Benzia, mais finalement, je vais partir sur... Celui Espagne-Colombie, là.
Ouais. Daniel Munoz.
C'est ça.
Daniel Munoz. Ok, Damien.
J'étais sur Benzia, je vais rester sur Benzia.
Il reste sur Benzia. Olivier.
Pareil.
Pareil, Benzia. Monsieur Lyons.
Comme tout le monde allait dire Benzia, je vais dire Tielemans.
Ah, bah voilà. Raymond.
T'as dit qui?
Tielemans. Tielemans. Tielemans, le Belge.
Tielemans.
Vous, Raymond.
Olmo.
Olmo.
Oui.
Ok. Ceux qui gagnent quand même, c'est Yacine Benzia. Honneur à Olivier Rouillet. On va vous remettre les images.
Non, oui, mais magnifique.
On se fait un petit plaisir parce que les images de foot avec la voix d'Olivier, on ne peut pas résister.
Non, mais pas du tout. Non, mais ce qui est génial, c'est. Moi, je ne l'avais pas vu la première fois quand je l'ai vu. Je dis, tiens, c'est. Puis, je n'avais pas vu le piquer. Moi, c'est ça qui me plaît. La façon dont il lève son ballon, l'enchaînement. Alors, il le lève pied droit et enchaînement pied gauche. Pratiquement sur place, regardez, ça va vite. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. Les défenseurs sont surpris du culot, de la vivacité d'action. Et c'est somptueux, quoi, parce que ce ballon qui s'en va de l'autre côté, le gardien peut absolument rien. Non, c'est un ensemble de gestes absolument magnifique.
Damien, on en voit beaucoup des buts et des jolis buts. Mais celui-là, là.
Ah non, comme ça, on n'en voit pas beaucoup.
Non, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois un truc comme ça, une combinaison comme ça.
Ouais, et je rajouterais juste le dribble de son coéquipier au départ. Derrière le pied d'appui, comme ça, qui est fait à une vitesse incroyable et en pleine course, et qui n'est pas du tout évident. Mais non, effectivement, la manière dont il se lève le ballon, parfois il se lève le ballon, enfin, il y a des joueurs qui se lèvent le ballon comme ça un peu involontairement et qui se rattrapent avec. Mais là, il se le lève de façon totalement délibérée. Et l'enchaînement est somptueux.
Et Karine Galli a changé d'avis, et c'est pas grave, Karine, vous étiez partie sur le but d'Yacine Benzia, et puis finalement, lorsque vous avez vu ce but donc, marqué par Daniel Munoz lors d'Espagne-Colombie, vous avez eu un petit coup de cœur.
J'ai entendu Bernard faire un « ah » et puis c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais je trouve
que... les images vont partir, on a déjà le son, on a plus le son. Non, regardez.
C'est absolument exceptionnel comme il arrive. En fait, on dirait un but de jeu vidéo. C'est magnifique. Ouais, Benzia, évidemment, il est incroyable. J'étais parti sur Benzia, et puis finalement, en revoyant celui-là, peut-être que c'est parce que je l'ai moins vu aussi, parce que Benzia, j'ai l'impression que depuis deux jours, on ne fait que le voir.
C'est sur le rebond aussi, le
exceptionnel,
le
comme il la frappe et comme elle est fou.
Et le dribble de Luis Diaz, il est pas mal aussi, non?
Mais en fait.
Et puis on a. Excusez-moi, mais on est à Wembley aussi.
En fait,
il y a un décor qui est aussi important.
Vous voyez, sur ce but, c'est le rebond qui lui permet de faire ça. Parce que si le ballon, il arrive en pleine de volée, c'est complètement dit. Le geste est différent.
Oui, mais il arrive juste
non, mais je suis d'accord.
Le ballon,
il est dans le rebond et il est sur son pied d'appui. Il part son pied d'appui et hop, il s'en va.
Le ballon, il lui permet, mais il a intérêt à aller vite quand même. Parce que le ballon, il fuse un peu.
C'est pas le problème.
Le problème, tu as intérêt à avoir une vitesse d'exécution parce que tout le monde n'est pas. Le ballon, il ne permet pas à tout le monde.
Je suis totalement d'accord avec toi. Non, ce que je veux dire juste. C'est ce rebond qui permet de faire ce geste hyper spectaculaire. En plus, c'est une forme de bicyclette, mais sur le côté. Et c'est il est
sublime. Mais quand même, ils sont tous sublimes.
La construction de Benzia, il se construit ce but. C'est vraiment un geste hors du commun.
On va filer du côté de Bernard Lyons, Angleterre-Belgique. Yuri Tielemans à l'initiative de la contre-attaque et à la conclusion. Vous l'avez choisi pourquoi? Pour vous démarquer, car vous faites preuve d'originalité dans cette émission.
Non, pour deux raisons, parce que c'est avec mes petits camarades ce soir sur le plateau, aller manquer d'originalité et aller glosser sur Benzia ou Munoz.
C'est un peu snob comme argument, ça, Bernard.
C'est le premier, et le deuxième est encore beaucoup plus simple, parce que je me suis fait un petit plaisir personnel, parce que c'est le la soirée des extérieurs du pied. Je trouve que le geste que fait Lukaku,
il est sublime.
Moi, c'est mon geste préféré dans le football. Alors, je me suis fait un petit plaisir personnel. Ouais, l'action est magnifique.
On est là pour se faire plaisir.
Et en plus, Lukaku, on a toujours l'impression que c'est un joueur de vitesse, un buteur tout en puissance. Et là, il est d'une finesse technique extraordinaire, cet extérieur. Et la tête plongeante de Tillemans sur une action qui fait quand même toute la longueur du terrain. Et ça m'a rappelé, dernière fois que j'ai vu un geste d'une telle pureté, en plus à l'arrêt, c'était avec Quaresma, ouais. Le portugais.
La spéciale.
Tu te souviens pas de Mbappé contre la Juve en Ligue des Champions l'année dernière?
Il en a
fait. Quand il jouait à Monaco.
Non, avec le PSG, il fait un extérieur, Neymar, je crois. Il me semble que c'est pour Neymar.
Moi, j'ai toujours eu un faible pour Quaresma parce que c'était
le
maître S extérieur du pied, comme ça, arrêté. Il était capable, arrêté, de mettre le ballon dans n'importe quelle autre partie du terrain et ça tombait pile. Et moi, j'ai passé ma vie à essayer de faire un extérieur du pied, je ne suis jamais arrivé. Donc, je suis admiratif des extérieurs du pied et de Lukaku, qui peut être aussi altruiste.
Raymond,
pas mis celui-là parce que vous avez choisi à cause du défenseur.
Qui joue mal.
Parce que c'est quand même le défenseur qui lui donne le ballon.
Voilà. Mais bon, l'extérieur n'a rien à voir avec
le défenseur. Oui, il y a un geste technique derrière, mais c'est consécutif à une énorme faute défensive. C'est pas construit.
Et tu peux rajouter une énorme course de Tillemans.
C'est la fin est jolie. Si le défenseur il met le ballon en touche, c'est fini.
Oui, mais n'importe quel joueur moyen ne fait pas ce que fait Lukaku.
Voilà. Oui, mais enfin bon. Dani Olmo, vous, ce soir, c'est un match qu'on a diffusé en prime time. C'est lors du match Espagne-Brésil. Oui. Donc on a parlé de Yamal, mais là il se passe un truc qui sort un peu du manuel dans la surface de réparation avec Olmo. Là.
Ah, complètement. Ouais. Ce qu'il fait dans la surface de réparation, il fait un petit pont. Déjà, il est à la limite. Ils sont trois autour de lui. Petit pont, il résiste. Parce qu'il y a Paqueta qui revient sur le dribble, il récupère le dribble et il frappe pied gauche derrière, intérieur, tranquille. Voilà, là il y a un assemblage de gestes techniques. Et il fait tout parfait.
Mais Raymond, regarde les défenseurs.
Sur cette action, le Brésilien,
c'est lui. Les défenseurs, c'est les Brésiliens.
C'est des anciens Lyonnais.
Et un Parisien. Au milieu. Voilà. Donc, c'est du haut niveau. C'est dans la surface de réparation. Il faut qu'il soit court. Il résiste là à Paqueta. Et derrière, il enchaîne. Il reste lucide. Parce que souvent, les dribbleurs, dans ces moments-là, quand ils partent comme ça, ils n'ont plus la lucidité. Lui, il est capable, après, de changer de pied et mettre l'intérieur du pied gauche. Donc, je trouvais qu'il était bien, mais ceci dit, les autres sont pas mal.
C'est pas mal. Voilà. Le petit Olmo, moi, c'est un joueur que j'adore, mais il a vachement de déchets. Non, il initie vachement d'action, mais pour en termes de stade, d'efficacité.
Mais là, on juge du meilleur but.
Là, c'est non, non, mais c'est ça va lui voilà. Certainement.
On juge pas sa carrière, monsieur Ménard.
Et Virginie, je vous ai proposé un jeu cruel, de trouver le pur but marqué dans cet rassemblement de mars. Est-ce que vous avez réussi votre mission, Virginie? Attention à vous.
Oui, mais alors j'espère que vous êtes prêts. C'est à la première minute de jeu. Ah ouais. Lettonie contre Liechtenstein. D'accord. Coup d'envoi.
Il y a foule dans les tribunes.
Ça part. Les joueurs reculent un petit peu, d'accord. On contrôle, on prend le ballon, on se fait des passes, on recule. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Je crois que le gardien n'a pas entendu le coup d'envoi. Regardez.
Voilà. C'est une faute de communication.
Non, mais je pense que tout le monde n'était pas tout à fait prêt, quoi. On n'était pas dedans. C'est le but de gag.
En fait, c'est peut-être le défenseur qui fait une faute, c'est pas le gardien.
Oui,
gardien, il veut pas avoir le ballon parce qu'il se dit, si je la rate.
Pas pour la lancer, pour la relance de l'autre côté. Il joue comme le deuxième.
Après, le ballon est quand même servi très lentement
de l'autre côté. Oui,
bon, c'est pas une frappe, quoi.
C'est magique. Mais il s'écarte pour refaire la relance. Enfin, il part pour repartir de l'autre côté. Il joue comme les deux défenseurs centraux et il s'écarte.
Donc le Liechtenstein. Adepte des préceptes de Guardiola.
Et complètement.
Ouais. Je veux dire, ça fonctionne bien.
Ça, tu le fais quand t'es défenseur central. Je ne le fais pas quand t'es à 30 cm de ta ligne.
Il a pas
c'est la Lettonie, oui.
C'est la Lettonie qui l'a
commencé. Il n'a pas de crampon aussi. Si je peux me permettre. Il n'a pas de crampon.
Regarde dans la relance ce soir.
Mais la relance, elle est pourrie.
Non, mais ce soir, regarde.
L'Espagne.
Le gardien espagnol qui est.
Le gardien espagnol.
Plenax. Il donne le ballon à Rodrigo. Plenax. Tranquille. Et là, hop.
Louche. Allez mes petits, c'est terminé pour ces images, mais on va passer à l'actualité du jour. J'ai au fiasco, nouveau caillou dans la chaussure de Thierry Henry pour constituer son équipe olympique. Ça coince à Rennes. Florian Maurice, directeur sportif qui freine les quatre fers pour libérer quatre joueurs du Stade Rennais au JO. Voici la séquence du jour en conférence de presse. On va tout d'abord remettre en contexte. Rennes compte-t-il libérer ses joueurs pour les JO? Voilà la question. Question posée à Julien Stéphan, au président Olivier Clorac. Il y aura un petit moment de flottement. Et puis, c'est le directeur sportif Florent Maurice qui va mettre fin à l'insoupçonnable suspense. Écoutez, regardez cette séquence.
Moi, j'ai une réponse. Hein. Non. Non. Effectivement, vous pouvez comprendre que libérer 4 joueurs titulaires du Stade Rennais dans une compétition qui est effectivement fantastique, mais il faut comprendre aussi les clubs. Et je crois qu'il y a un très très grand club qui a été très clair et très cash là-dessus. Évidemment, on fera de notre le mieux possible, je vais dire, pour pouvoir aider l'équipe de France. Mais il faut que les intérêts soient communs. Et on ne peut pas se déshabiller et pour habiller forcément l'équipe de France.
Le grand club pas nommé, c'est le Real. Les 4 joueurs ciblés sont Calimouane de Truffert, Doué, qui sont habituellement appelés par Thierry Henry. Benjamin Bourigeaud pourrait être le joueur donc des plus de 23 ans. Puis rappelons que la
Terrier
date
aussi.
Terrier éventuellement. Absolument. Rappelons aussi que la date du foot au JO, c'est du 24 juillet au 9 août. Et c'est pas une date FIFA, donc ce sont les clubs qui ont le dernier mot. On vous le rappelle, mais c'est la règle.
Oui, rappelons quand même que les JO, c'est la première compétition internationale de football. Et c'est la dernière qui ne sort pas au calendrier FIFA.
Florian Maurice est-il à côté de la plaque? De chroniqueur, pas d'accord? Envoyez le jingle, c'est Nicolas Angie. Non. Là, j'ai plus le temps. Là, je dois caler la pub et tout ça. Là, j'ai un métier, monsieur.
Florian Maurice, meilleur buteur de l'équipe de France au JO d'Atlanta en 96. Avec Raymond 42.
Au revoir. Il l'a sûrement oublié.
Oui, Gabi. Non, d'accord. Florian Maurice est à côté de la plaque pour Karine. Karine, vous commencez. Qu'est-ce qui passe pas dans la sortie de Florian Maurice?
Oui, ça m'agace et Bernard en a parlé. Je crois qu'il était content d'être avec ses petits copains à Atlanta, avec Wiltord, avec Pires, etc. Je trouve ça nul parce qu'en plus, les Rennais sont les premiers à se plaindre à ce que soi-disant les Rennais sont jamais appelés en A. Alors, il n'y aura pas de joueur en A à l'Euro, a priori, donc tout va bien. Ils ne seront pas fatigués. Mais par contre, pour les Jeux Olympiques, c'est non. Ils vont rater combien? 8 journées de Ligue 1? Pas du tout. Donc, je trouve ça nul. Et de prendre l'exemple des Espagnols qui, eux, ne sont pas vraiment concernés par les JO parce qu'on ne sait pas la France, c'est pas Paris. Je trouve que c'est absolument pas corporate et élégant de sa part.
Ok. Non, Damien Degore, pourquoi?
Je suis un peu surpris par le discours de Karine qui, il y a une semaine, sur cette même antenne, sur ce même plateau, trouvait que les Jeux Olympiques n'étaient pas très passionnants au niveau du football. Et maintenant, ça devient la compétition qu'il faut pas rater. Il est dans son rôle, Florian Maurice. Il a raison. C'est pas à lui de défendre l'équipe de France Olympique. Il dit pas qu'il va envoyer personne. Il va envoyer des joueurs. Mais il veut pas envoyer tout le monde. Et je comprends. Moi, je suis désolé, mais il y a 3 ans, il y avait déjà ce problème. Ceux qui sont à côté de la plaque, ce sont les fédérations qui se sont pas battues pour que ce soit une date FIFA. C'est pas à Florian Maurice, c'est pas au club. Les clubs, ils préservent leurs intérêts.
Ok. Sur le site l'équipe, vous tranchez soit Karine, soit Damien. Le président va trancher. Bernard sera aussi sorti de prison. Dans quelques minutes, c'est la suite de ce show magnifique qui s'appelle l'équipe du soir. A tout de suite. Juste avant la pause, il y avait un duel entre Karine et Damien sur la sortie de Florent Maurice qui frette des 4 fers pour envoyer donc 4 joueurs ou au moins 3 pour l'équipe de Thierry Henry au JO. Florian Maurice est-il à côté de la plaque? Son propos, évidemment. Oui pour Karine, non pour Damien. Président, qui gagne? Qui a votre point?
Si je lis bien la question, moi je suis du côté de Florian Maurice. Lui, il défend...
Vous, l'ancien sélectionneur de l'équipe olympique, oh, bah, alors oui, là, c'est un bouche un coin, ça. Allez-y.
Non, mais après, tout dépend de quel côté on est. Lui, il est directeur sportif d'un club et il a des comptes à rendre à la fin de l'année. Et peut-être même avant la fin de l'année. Mmh. Je veux dire, si son début de championnat, il est foiré parce qu'il a 4 joueurs qui sont partis et qui ne peuvent pas faire les premiers matchs et que ça part de travers...
Finale, c'est le 9, la première journée, c'est le 16. Donc
est-ce qu'ils leur laisseront des vacances? Est-ce que ça va couper dans l'organisation pour l'entraîneur et pour le club? Donc, c'est problématique. Donc quand on se positionne en tant que directeur sportif et Florian,
donc tout le monde est pour les jeux, mais
donc tout le monde est faux cul. Ouais. Donc en fait que Thierry Henry ne présente pas d'équipe de France parce qu'en fait c'est pas possible.
Donné la solution sur les dates FIFA.
Si vous me permettez,
président, vous avez tranché, vous demandez audience.
Moi j'ai tranché. Non, moi, mais pourquoi on fait pas du football à 5? Pourquoi on a... Mais je regrette, le rugby... Encore une fois, le rugby est moins con que nous. Le rugby, il faut un rugby à 7.
T'es payé cher pour participer à cette émission.
Non, mais moi, je trouve ça très... Non, mais je regrette. Moi, je suis pour un
Il y a du foot en marchant.
Non, non, du foot à 7. Je vous dis pas de bêtises.
Ah, mais là, passe à 7 maintenant, ouais,
mais ça serait vachement bien.
Non, mais ça serait vachement bien, mais là.
Ça sera toujours pareil, il y a personne qui voudra lâcher les joueurs.
Non, mais vous avez un temps d'avance sur la créativité.
Terrain plus petit, moins d'activité.
Bernard Lyons,
j'ai l'impression. Avoir des idées nouvelles.
Bernard, vous êtes un peu. J'ai l'impression que vous êtes un peu légaliste, mais je vais vous laisser vous expliquer. Rappelons qu'il y a 7 jours, dans le Figaro, Philippe Diallo, l'excellent président. Au dernier jeu, la FFF avait essuyé 31 refus de club. Notre job est d'essayer d'avoir la meilleure équipe possible. Bon, bah, bon courage.
Là,
Philippe.
C'est bien parti. Hein.
Là, on est parti dans un truc un peu bizarre.
Moi, je ne partage pas le point de vue de Florian Maurice, à titre personnel, mais je suis sur la même ligne que Raymond et Damien. Il est dans son rôle. Je ne dis pas qu'il est
à côté de la plaque.
Il est dans son rôle. Voilà. Et où je ne suis pas d'accord avec Karine, parce qu'elle nous parle du début du championnat. Elle a raison sur les dates.
Ouais.
Mais n'oublions pas une chose. C'est compliqué aujourd'hui pour que à peu près la moitié de la Ligue 1 se positionne sur cette question, parce que c'est un championnat qui n'a jamais été aussi serré dans la première partie du tableau depuis à peu près une vingtaine d'années. Mmh. Et qu'il va y avoir une réforme des Coupes d'Europe, avec des barrages, que ce soit pour la Ligue des Champions, le 4e, la Ligue Europa et même la Ligue Conférence. Le ticket d'entrée pour la Ligue Conférence la saison prochaine, c'est 10 millions d'euros. Et on va se retrouver dans la période des barrages. Ouais. Alors, imagine un club comme Rennes, Karine, qui se retrouve en barrage, alors je ne sais pas, la Ligue Conférence, la Ligue Europa Conférence, et qui se retrouve privé de 3-4 de ses joueurs.
Mais arrêtons avec 4 déjà, c'est 3, Bernard.
Directeur sportif, Florian Maurice, il se fait retoquer sur ces matchs-là, parce qu'ils ont eu un élan patriotique pour l'équipe de France au JO. Mais les propriétaires de Rennes, ils vont dire quoi? Les propriétaires de clubs, on va peut-être mettre Lyon s'ils sont européens, Brest, Nice, etc., etc. Ils vont dire quoi? Ils vont dire, vous êtes bien gentils. Donc nous, on va se tirer une balle dans le pied financièrement. Ça va nous coûter des millions et des millions d'euros. Tout ça pour faire plaisir à la France.
Mais justement, l'exemple de Rennes, il est excellent, Bernard. On a la famille Pinault qui représente la France, l'excellence française. Donc, ils devraient vouloir que leur club aussi brille au JO. Si les Rennais ont raté leur début de championnat, c'est à cause de quoi? Des JO, de l'Euro, de la prochaine Coupe du Monde, d'une comète qui arrivait sur Terre. Je veux dire, c'est trop facile. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vu que personne n'est concerné par ces Jeux Olympiques, alors que tout le monde en fait une priorité, avec notamment le foot, on ne sait pas pourquoi le foot, là, en 2024, c'est devenu une priorité, il faut une médaille, etc., qu'on arrête d'être hypocrite et qu'on dise à Thierry Henry, comme à Ripoll, tu auras une équipe Z, des joueurs que tu n'auras jamais entraînés, et tu vas te ratatiner comme à Tokyo.
Il y a des clubs. Et ben voilà. On a sondé les 18 clubs de Ligue 1 demain dans le journal d'équipe. Mmh. Tu verras que, par exemple, des clubs comme Montpellier feront comme il y a 4 ans à Tokyo. S'il faut libérer.
Donc il n'y a que Nicolin qui est classe dans l'histoire?
Non, ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas à l'encontre de leur propre intérêt.
Virginie, Rennes est-il le club qui pourrait
être. Je ne dis pas que c'est bien, Karine. Je ne dis pas que je suis d'accord avec Stéline. J'essaie juste d'être juste et légaliste.
Virginie, Rennes est-il le club qui pourrait être le plus impacté donc par les JO?
Alors vous allez regarder, vous allez le voir, j'ai pris la dernière liste de Thierry Henry. Ouais. Et donc Rennes a 3 joueurs concernés. Désiré Doué, Arnaud Calimundo, Adrien Truffert. Lille en a 3 aussi. Ouais. Lucas Chevalier, Bafodé Diakité, Léni Yoro, Lens en a 2, Eli Wahi, Andy Diouf. Et puis les autres, à savoir le PSG, l'OL, Nice, Monaco, Brest, Toulouse et Montpellier, n'ont qu'un seul joueur concerné chacun dans la catégorie U23.
Florian Maurice avait fait les JO en 1996 à Atlanta. Ça
meilleur buteur des Bleus.
Nous avons le sélectionneur de l'époque des Espoirs qui est président de l'équipe du soir. C'est Raymond Domet. Raymond, à chaque fois qu'elle a mis à disposition des joueurs, vous avez toujours cette chose-là. Vous dites non, c'est aux joueurs de faire du lobbying, c'est aux joueurs de finalement d'aller voir les clubs pour dire non, il faut me libérer tout ça. À l'époque, en 96, quelle était l'attitude de Florian? Vous lui avez certainement passé ce message-là. Qu'est-ce qu'il avait dit au président Aulas, au conseiller du président Bernard Combe, à Saint-Bernard Stéphane?
On avait tellement répété depuis des semaines, voire des mois, qu'il y avait les JO, qu'on voulait y aller, que c'était extraordinaire, la qualification, c'était tout le monde allait aux JO. Il n'y avait pas, eu de doute.
Il n'y avait pas ce climat-là?
Il n'y avait pas.
À cette époque ou pas? Parce que vous avez demandé quand même de vous battre quand même, aux joueurs de prendre leurs responsabilités, quand même d'aller
combattre. J'ai prévenu, j'ai anticipé en me disant. Ça peut être problématique, donc il vaut mieux prévenir. Et c'est les joueurs qui ont fait la différence, c'est pas moi.
Est-ce qu'il y a un joueur que vous vouliez qui les a pas faites? c'est cette compétition. Non.
Mais
non.
Juste, okay. Si je peux. Il y avait pas mal de forfaits, de blessures.
Il y a eu des blessures, mais pas, mais pas dans les choix. Ouais. Tous ceux qui devaient être convoqués, qui devaient être présents, il n'y a pas eu de débat. Ils sont deux.
Damien.
Déjà, on compare deux époques qui sont.
C'est pas les mêmes.
Qui n'ont rien à voir parce qu'il y avait beaucoup plus de joueurs qui évoluent en France qu'aujourd'hui
et
que
les clubs français.
Et que les clubs étrangers envoient des très mauvais signaux aux clubs français qui disent bah, si les clubs étrangers le font, pourquoi nous on le ferait pas? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on dit tout le monde trouve que les JO c'est génial et tout, bon, déjà, je suis pas certain que ce soit le cas de tout le monde. Moi, je vais regarder, mais est-ce que je vais me passionner pour les JO?
Le foot,
je sais pas.
Le foot, bien sûr.
Mais ça me fait marrer quand même parce que on a vécu la même scène, les mêmes problèmes il y a 3 ans, il n'y a pas 30 ans, il y a 3 ans, où on déplorait que ce n'était pas une date FIFA, où on regrettait qu'on n'y ait pas de moyens de pression sur les clubs et que dans 2024, attention, ce ne serait pas pareil. Mais qu'est-ce qui a été fait? Évidemment, ce n'est pas les clubs. Ce n'est pas les clubs qui vont réclamer que ce soit une date FIFA. Mais les fédérations, pourquoi elles ne le font pas? Pourquoi la FIFA n'a pas du tout intérêt à ce que les JO deviennent des dates FIFA? Parce qu'ils n'ont pas envie que les JO, sa concurrence, ses propres compétitions.
C'est un problème politique.
Mais exactement. Voilà, okay. Donc il faut arrêter. Là, les clubs.
C'est d'ailleurs le seul sport où il y a une catégorie d'âge.
Exactement.
C'est le seul
sport. Mais on peut être en désaccord.
Justement, pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre les deux compétitions.
Tout à fait. On peut être en désaccord philosophiquement parlant avec Florian Maurice. Mais là, on n'est plus sur la philosophie ou le foot plaisir, quoi. On est sur la défense des intérêts.
On a bossé sur la bio de Florent Maurice. L'année 96 a été terrible pour Florent Maurice. Le 2 septembre, avec l'OL, 2 septembre 96, il se blesse très sérieusement face à Nantes en championnat. Rupture du tendon d'Achille de la cheville droite. Florian Maurice avait enchaîné la saison à Lyon. Les JO, terminés donc à Atlanta le 27 juillet. Reprise avec son club l'OL le 10 août. Puis, première convocation avec l'équipe de France d'Aimé Jacquet chez les A, là. On est fin août. Puis il joue une demi-heure contre le Mexique, puis après match en championnat où il se blesse contre Nantes. Il reviendra en mars 97, mais ça sera plus jamais le même joueur. Alors peut-être que les JO, quand ils parlent de compétition fantastique, ça renvoie à lui sa propre histoire et voilà des souvenirs, on va dire un petit peu douloureux, voilà pour Florian Maurice.
Ils se sont pas tous pétés derrière, je veux dire par exemple.
Non, mais lui.
Pires Wiltord, ils ont enchaîné.
Non, mais lui personnellement. Oui, mais que lui personnellement, par rapport aux JO et par rapport à cette blessure, c'est voilà. Mais ce n'est pas ce qu'il a évoqué en conférence de presse, vous avez raison.
Mais que tous les clubs français prennent la même décision que Rennes et qu'il n'y ait pas de joueurs, en fait, ça sera mieux.
Karine, on a été battu par le
Mais bien. Que Thierry Henry, en fait, vienne seul. Mais après,
il faut quand même rappeler que cette interdiction des clubs français de libérer leurs joueurs, ce n'est pas nouveau. Je vous rappelle à Monaco, quand il y avait Fabinho, le Brésilien, qui était dans le même cas que Kylian Mbappé, il voulait absolument faire les JO.
De Rio.
De Rio, etc. 16, hein. Et Monaco lui avait dit, t'es gentil, toi, mais tu restes là. Il avait très mal vécu. La moralité de l'histoire. Et ça m'embête de la donner, mais c'est la vérité. Monaco a fait une formidable saison, dauphin en championnat, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Fabinho a fait une saison fabuleuse, il a signé où dans la foulée?
Champion du championnat. Hein. C'est pas dauphin.
Vous étiez vainqueur. Et Fabinho signe à Liverpool.
Ok. Le Minuit Info, les infos du soir par Virginie Saint-Cilly. À travers les Flandres aujourd'hui, course cycliste, une image marquante d'une effroyable chute, Virginie.
Celle de Wout van Aert à un peu plus de 65 km de l'arrivée. La course était diffusée sur notre antenne. Le Belge semble être le premier à perdre l'équilibre. S'ensuit derrière un effet domino terrible et des images particulièrement inquiétantes.
En avant, Wout van Aert est dans la chute en bas de l'écran, regardez.
L'épaule et tout. Hein. Alors là, grosse chute là. Tout le maillot est séché. Alors là, ça sent l'abandon là pour van Aert clairement avec toutes les plaies qu'il a.
Imaginez un petit peu, juste avant le Tour des Flandres, cette chute qui intervient sur Wout van Aert. On le disait tout à l'heure, cette équipe qui n'a pas été épargnée par la malchance et les chutes.
Trois Lidl Trek. Oh les brûlures là pour Wout van Aert là.
Il est brûlé. Aïe.
Un peu plus tard, le bilan est tombé. Le coureur souffre de multiples fractures au côte. Sa clavicule est cassée. Il est officiellement forfait pour le Tour des Flandres et pour le Paris-Roubaix.
Il aura 30 ans le 15 septembre prochain, Wout van Aert. C'est une blessure. On peut s'inquiéter pour la suite de sa carrière.
Je sais pas. Pour la suite de sa carrière, je vous trouve. Pour la suite de sa saison, oui, mais.
À 30 ans.
C'est quand même un coureur incroyable.
Ah, mais il est extraordinaire, van Aert.
Qui s'entraîne de façon formidable. Il avait quand même tout fait. Tout misé sur les classiques du printemps. Il avait renoncé en grande partie à sa saison de cyclo. Moi, je suis pas sûr que sa carrière soit en question. Bon, sa saison, ça me semble bien, bien compromis, effectivement.
Mais... Non, mais moi, je me suis rappelé d'un gadin. Alors, le gadin était encore plus terrible, de Chris Froome. Je crois que c'était sur un entraînement à Paris-Nice.
Ouais, c'était pire.
Là, il avait pris un mur. Ouais. Le petit à la Philippe, là, sur sa chute à Liège-Bastogne-Liège, là, le gars est parvenu. Hein.
Le Colombien.
Ah oui, mais ça, c'était un accident de la
Bernal.
Route.
Oui, ouais, il revient. Lui, il est beaucoup plus jeune. Ouais. Il est plus jeune.
Il faut voir
la durée de son indisponibilité aussi. Mmh. C'est pareil. Là, il a annoncé forfait pour les Flandres et pour Paris-Roubaix.
Oui, là, il a un mois, un mois et demi.
Voilà, mais.
Côte et clavicule cassée.
Clavicule pour faire du vélo.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être pour juin, il peut revenir pour aider. Vingegaard sur le Tour de France. C'est possible.
Ouais. Après, il y a beaucoup de chutes en masse là, ces derniers temps. Là. C'est pas la première qu'on voit dans la semaine. Ça fait là, en 8-10 jours, ça fait 2-3 fois que je vois ces images-là. Elles sont terribles.
Bah, les chutes, fait partie du. Malheureusement, du.
À la limite, quand tu les vois à quelle vitesse ils vont, l'espace qu'ils ont entre les uns, tu dis qu'il n'y en ait pas plus, c'est un miracle. Ouais.
Qui a remporté la course à travers la Flandre, Virginie ?
C'est l'Américain Matteo Jorgensen. C'est le coéquipier de Wout van Aert chez Visma Lease Bike. Attaque tranchante déclenchée à 7 km de la ligne. Aucun de ses compagnons n'a pu suivre et il est allé lever les bras tout seul pour continuer sa belle saison après avoir remporté Paris-Nice au début du mois.
Visma Lease. Jumbo Visma.
Ouais. Et Tige Bonnat fait 3e, c'est ça ?
Oui, okay. Exactement.
Ouais, 3e.
L'OL est en demi-finale de la Ligue des Champions d'âme.
Génial.
Classique.
Victoire 4 à 1 face à Benfica. Doublé de Cascarino et doublé de Diani. Elles prennent d'abord l'ascendant sur une erreur adverse à la 44e. Le sommaire récupère, la gardienne est sortie. Donc elle remet à Cascarino qui lobe. L'attaquante marque aussi à la 51e d'une belle frappe enroulée de loin après une récupération au milieu de terrain. Et puis doublé de Diani dans le temps additionnel. D'abord sur un centre de Majerie. Hollande tombe en contrôlant. L'attaquante marque en une touche. Et puis la transversale de Carpenter pour terminer. La défense va toucher le ballon qui va rebondir sur la Lyonnaise. Elles sont qualifiées en demi-finale de cette Ligue des Champions.
Plus demain, c'est Paris Saint-Germain contre Raquel, les Suédoises. On fait le point sur les blessés en Ligue 1 pendant la trêve, là.
Alors, je vous parlais de Bradley Barcola tout à l'heure, côté parisien. À Marseille, c'est l'hécatombe. Le club perd 5 joueurs. Pape Gay, touché au mollet. L'ischio pour Ismail Assar. Les adducteurs pour Ulysse Garcia. Le genou pour Bamo Meïté qui ne rejouera pas cette saison. Et la déchirure de l'ischio gauche de Jonathan Clauss hier soir avec les Bleus. En plus des joueurs qui étaient déjà forfaits.
Gigot, Morillo, Rongier. Voilà.
Entre autres. Coup dur pour Nantes aussi, englué dans la course au maintien. Les Canaries vont devoir faire sans Moses Simon pour le sprint final. Il est sorti sur civière en pleurs hier après un choc avec le gardien adverse lors de la défaite du Nigeria face au Mali. Fracture du péroné de la jambe gauche. Fin de saison pour l'ailier. Et puis le Havre sera lui privé de son capitaine Haruna Sanganté au moins pour le match dimanche contre Montpellier. Il a été touché à un entraînement du Sénégal et il a dû quitter le rassemblement pour sa toute première sélection.
C'est ballon. Simon sur le flanc, c'est une mauvaise nouvelle pour Antoine Comboiré, ça. Hein. Ouais. OM-PSG, c'est dimanche, vers un record d'affluence au Vélodrome.
Le match se jouera à guichet fermé, ça c'est acté. Les supporters parisiens étant interdits de déplacement, le club peut commercialiser les places du parcage visiteur. L'affluence attendue est de 65 800 spectateurs. Le record étant de 65 894 spectateurs. Là aussi pour un OM-PSG en février 2023. Donc dans tous les cas, on n'en sera pas loin et il pourrait même être légèrement battu.
Bah, c'est à 94 spectateurs près, quoi. Hein.
Voilà.
Je ne suis pas fiable sur les maths, sur les coups. Non, c'est ça, je vous le confirme. On ferme la page Ligue 1 avec le nouveau logo dévoilé.
Est-ce que ceux qui ont jeté des cailloux sur le bus lyonnais sont repérés ou
ils
seront dans le coin ?
Ils ont été repérés.
Il n'y a que ceux qui ont applaudi Mbappé.
Et ceux qui ont applaudi, ils seront tous là.
Fermons la page Ligue 1 avec un nouveau logo qui a été détaillé et dévoilé.
Il a été présenté ce mercredi sur les réseaux sociaux, soit une semaine après l'annonce du nouveau gaming du championnat rebaptisé Ligue 1 McDonald's dès la saison prochaine. Ce sera donc ce logo qui sera utilisé à partir de cet été. Le début d'une nouvelle ère donc, marqué aussi par un changement de trophée. Fini l'Hexagone qui aura duré presque 20 ans. La coupe remise au vainqueur du championnat de France va également changer de design.
On n'a pas le...
Ah non, il faudra patienter encore un petit peu.
À 36 ans, Lionel Messi évoque son avenir.
C'était dans un podcast diffusé cette semaine par la télévision saoudienne.
Il revient à Paris ?
Je précise, a priori non, mais voilà, pas d'exclu. Hein. L'Argentin est sous contrat avec l'Inter Miami jusqu'à la fin de l'année 2025. On va l'écouter.
Fue un mes maravilloso para nosotros, pero si me tengo que quedar con lugar en el momento
Si je n'avais pas gagné la Coupe du Monde, j'aurais pris ma retraite internationale, car j'étais sur le point de prendre un autre virage dans ma carrière en club. Le fait d'être champion du monde pour nous, nos familles et le pays tout entier a été magique. Et cela restera gravé dans nos mémoires pour le reste de nos vies.
Una cosa inolvidable que va a quedar en el recuerdo para siempre y fue un momento mágico.
Dès que je sentirai que je ne peux plus être performant, que je ne prends plus de plaisir à jouer ou que je ne suis plus capable d'aider mes coéquipiers, j'arrête. Je sais quand je suis bon et quand je suis mauvais. Si je me sens bien, je continuerai à jouer. Pour ma retraite, peu importe l'âge que j'aurai.
Des clous, ils ont changé.
C'est drôle depuis son sacre en 2022 au Qatar. J'ai l'impression qu'il a fait un reset, que tout ce qu'il a gagné avant, il en a gagné. Hein, avant, des Ligues des Champions et tout ça, ça. Là, c'est le mondial, le mondial, le mondial, le mondial, le mondial.
C'était tellement attendu.
On lui parlait beaucoup de ça aussi. Hein.
Comment ?
On lui en parlait beaucoup.
On parlait que de ça.
Et l'Argentine, c'est le plus grand pays au monde de football. Et tu deviens l'égal de Maradona. Je veux dire, je pense qu'ici, on ne se rend pas bien compte de ce que c'est pour les Argentins de gagner la Coupe du Monde. Quoi. Pour Messi, quoi.
Pourquoi vous dites que c'est le plus grand pays de foot du monde ? Je sais que vous avez beaucoup voyagé, beaucoup tourné en Amérique.
Parce que d'un point de vue marketing et de palmarès, tout le monde te dira que c'est le Brésil et t'as pas le droit de déroger à ça. Maintenant, moi je me souviens de la finale de la Coupe du Monde 2014 à Rio. Il y avait à peu près 15-17 000 places pour les Argentins. Ils sont venus à Rio à plus de 100 000. Parce que l'histoire de leur pays se jouait à Rio et ils sont venus. J'attends de voir un jour une finale à Buenos Aires et voir si 100 000 Brésiliens viendraient. J'en doute fortement.
Ok. Bon, la question mérite d'être posée. Vous n'avez pas encore la réponse.
Non, mais
vous avez une petite idée sur la question.
J'ai une intime conviction. Ouais.
2 ans et demi de prison requis contre Luis Rubiales après le baiser forcé à Jenny Hermoso.
L'ex-président de la Fédération espagnole de football est poursuivi pour agression sexuelle après avoir embrassé la joueuse sur la bouche par surprise quelques minutes après le sacre mondial de la Roura. C'était en août 2023. Il est aussi accusé de délit de coercition pour avoir exercé des pressions directes et indirectes sur Jenny Hermoso pour qu'elle affirme que le baiser avait été consenti. Dans le détail, le parquet demande 1 an de prison pour le délit d'agression sexuelle, 1 an et demi pour le délit de coercition et le versement de 50 000 euros d'amende, d'indemnité à la victime. Une fois la peine accomplie, il requiert aussi 2 ans de liberté surveillée.
Caroline Garcia, stoppée net en quart de finale du tournoi de Miami.
La Française a subi la loi de l'Américaine Danielle Collins. C'est le cas de le dire. Elle s'incline en 2 manches sèches, 6-3, 6-2, pour la 4e fois en 4 confrontations avec son adversaire du jour. Le match a aussi montré qu'elle est toujours gênée par son épaule droite. Elle a de nouveau été manipulée par le kiné tout au long du 2e set. Elle n'ira pas dans le dernier quart.
2 manches sèches, c'est dur à dire, hein, bravo. Hein. Chez les hommes, des nouvelles de Yannick Sinner, il continue sa route ou il est stoppé, lui ?
C'est le premier demi-finaliste les hommes. L'Italien s'est facilement défait de l'invité surprise de ce tournoi, le Tchèque Thomas Machac. Arrivé suite à plusieurs coups d'éclat, il a éliminé Rublev, puis Andy Murray et Matteo Arnaldi, avant de finalement s'incliner ce soir face à bien plus fort que lui. Sinner l'emporte 6-4, 6-2 et il affrontera le vainqueur du match qui oppose Medvedev à Jarry.
Handball, enfin, le match final de Montpellier en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Ça s'est passé ce soir en Croatie à Zagreb. Alors, est-ce qu'on peut parler de bonne opération ? Oui, non ?
Oui, sur le principe, parce que le MHB n'était pas le favori. En revanche, le résultat final reste assez frustrant parce qu'ils ont mené presque toute la partie. Ils comptaient encore 2 buts d'avance à la 56e minute avant de se faire rejoindre et de louper 2 balles de victoire. Ils se contentent du nul, 27 partout, et puis du ballotage favorable aussi avant le match retour à domicile devant leur public la semaine prochaine.
Ah, okay. Bon, on verra ça la semaine prochaine, hein, si c'est une bonne opération. Les Bleus, merci Virginie. Les Bleus inquiètent. Hier à Marseille, Didier Deschamps a donc fait le bilan de ces 2 matchs qu'il qualifie de, je le cite, difficile. Didier Deschamps, le sélectionneur, nous a donné sa raison. L'explication de ces rencontres difficiles, ce sont les échéances à venir, le calendrier. Tous les joueurs pour Didier Deschamps ont un sprint final à jouer avec leur club, tant en championnat qu'en Coupe d'Europe. Conséquence, les joueurs, je le cite, ont géré ce rendez-vous international, mais plus étonnant, c'est que le sélectionneur a lui aussi géré ce double rendez-vous. Didier Deschamps, c'était hier, juste après donc la victoire contre le Chili. Pardonnez-moi, j'ai hésité. On l'écoute.
C'est vrai que ce rassemblement de mars, il a été plus difficile que les précédents. J'étais joueur aussi. Par rapport aux échéances qui sont les leurs derrière, voilà. Je comprends que que les joueurs soient dans un peu dans la gestion. En plus, en étant dans cet état d'esprit-là, et deux joueurs qui se blessent, ça ne donne pas envie de prendre de risques aussi. Ça se traduit aussi, évidemment, par une rigueur défensive qui a été beaucoup moins bonne sur ce rassemblement. Même si j'ai rien fait pour non plus, puisque l'aspect défensif sur les deux matchs, si on prend que les quatre défenseurs et le gardien. Mais de par tous les éléments aussi sur les uns et les autres, moi aussi j'étais obligé de gérer.
Voilà, tout le monde a géré, les joueurs et le sélectionneur. Alors ce rassemblement de mars, qu'est-ce qu'on en garde? Est-il voué à l'amnésie? Des chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Olivier?
Oui.
Vous avez répondu oui. Bernard va vous répondre non.
Bah, il a
donc
droit.
Un duel. Olivier, ce rassemblement de mars, on le jette, on le up et on l'oublie. Oui, c'est votre théorie et votre lecture.
Mais oui, parce que de toute façon, ça ne changera absolument rien dans la tête de Didier Deschamps. Il est arrivé avec un nombre de joueurs conséquent, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller et il sait avec qui il veut aller. Donc, à mon sens, ça ne lui a pas apporté grand-chose. La seule, si, ça lui a dit que tout d'un coup, ces joueurs, pour une raison, comme il explique, puisqu'ils étaient en train de gérer, ont eu du mal à démarrer les matchs et ont eu du mal à rentrer dans la partie. Mais point, mais ça, c'est peut-être le... C'est pas très important. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il est sûr de ce qu'il va faire et ça ne changera rien. Ce rassemblement des
Ayez confiance. Bernard, vous répondez non. Donnez-nous les raisons.
Que Nenny, il convient aussi de se souvenir des vilaines choses pour les corriger en vue de l'Euro. Et justement, ces matchs-là, ces matchs du mois de mars, ils ont servi à ça. Ils ont montré que si l'équipe de France n'était pas au taquet, ben, on n'avait pas tant de marge que ça. Que la vie sans Antoine Griezmann, elle n'est pas si jolie que ça non plus. Que si Mbappé, il n'est pas extrêmement performant, ben, l'équipe de France, elle est un peu moins. Et que surtout, on a toujours un problème avec la défense, et notamment la charnière centrale. Et sans charnière centrale de très haut niveau, on n'a jamais rien gagné avec l'équipe de France. Donc, c'est vraiment des indicateurs, c'est des petites piques de rappel dont l'idée, qui vont beaucoup servir d'idée des choses.
Ok, je vous ai laissé finir pour l'ensemble de votre... Bernard, Olivier, sur le site L'Équipe, à vous de trancher. Raymond, Olivier ou Bernard?
L'amnésie.
Oui.
C'est Olivier.
Oui, l'amnésie dit oui.
Oui,
oui
parce ouais, que on s'en fout, ouais. Je veux dire, ces matchs de mars, je veux dire qu'ils se souviennent des matchs de mars avant toutes les autres compétitions, celles qu'on a gagnées. Ils ont une importance sur le moment où on en parle parce que ils sont une projection sur l'avenir, sur l'euro.
Ah ben donc c'est pas si...
Non, ça veut dire que en fonction du résultat de l'euro, on dira, on fera le retour en se disant, ouais, mais regardez, déjà au mois de mars, on avait les prémices que ça n'irait pas.
Donc si
ça marche bien, ouais. Celui-là, on l'oubliera totalement. Non, bon, on dira, bon, c'était de la préparation, on a fait tourner des joueurs, et ça n'a aucun intérêt.
Donc réponse au 14 juillet si...
Complètement. Voilà, rendez-vous le 14 juillet.
Le 14 juillet, non, mais voilà.
C'est un peu facile comme...
Mais non, mais c'est la réalité.
Donc vous ne pouvez pas répondre là. Aujourd'hui, on est le 27. Le 27 mars, vous ne pouvez pas répondre là, dire voie l'amnésie, on ne peut pas savoir.
Non, je dis que ces matchs-là n'auront aucun intérêt au mois de. Dans un mois.
C'est... D'accord. Tout dépend comment ça se passe à l'euro par rapport à ce que tu as dit.
En fonction de l'euro, on reviendra après. On
toi, dira. Tu penses que ça fait depuis Mathusalem qu'on n'avait pas joué sans Griezmann, tu penses que ça n'a servi à rien, ça n'a
mais non.
Des champs d'entièrement.
Non, mais justement, à l'euro, tu auras Griezmann.
Voilà.
Le problème, c'est deux matchs-là. Ils ne serviront à rien, tout le monde dira.
Raymond, effectivement, t'es sûr que t'auras Griezmann,
effectivement,
tous les matchs,
sans Griezmann, l'équipe n'est pas tout à fait la même.
Mais Bernard, on a aussi perdu avec Griezmann. Hein.
Oui, mais dans les éléments, dans les arguments que tu as donnés, tu as donné ce qu'on sait. On sait que l'équipe de France doit être au taquet, on sait qu'il faut Griezmann, et on sait qu'Mbappé doit être au taquet. Donc ça, c'est rien de nouveau. On le sait, tout ça. Donc, à quoi ça sert? À rien, puisqu'on le sait.
Olivier, est-ce que tu trouves qu'on a avancé depuis la Coupe du Monde?
Mais là, t'es obligé, parce que c'est des dates FIFA. T'es obligé. Oui, mais c'est des dates FIFA.
En quoi les Bleus ont progressé ou avancé sur des questions depuis la Coupe du Monde 2022? Moi, c'est surtout ça, en fait. C'est parce qu'à la Coupe du Monde 2022, il y avait pléthore de forfaits. Il a bidouillé, très bien, t'es arrivé en finale, c'est exceptionnel par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport au contenu des matchs. Mais t'avais des interrogations sur l'aspect défensif, tu les as toujours. T'avais des interrogations sur des joueurs qui pouvaient marquer devant si Kylian Mbappé, c'était pas l'option numéro 1, tu balances pour Kiki et puis on voit ce qui se passe. Et donc ça quand même, depuis la Coupe du Monde, tu l'as pas vraiment réglé cette problématique-là. Et il y a eu du temps. Et il n'y a pas de joueurs qui se sont vraiment révélés. Parce que Kolo Muani a fait un bon match hier. Bon, bah, c'est le premier.
Ça
depuis, des. De quoi ?
Ça t'étonne ?
Qu'il n'y ait rien qui ait avancé depuis 2022 ?
Qu'on n'ait pas eu d'autres réponses ?
Ah ben c'est embêtant quand même, parce qu'il y a eu du temps,
non,
il y a eu des
puisque,
matchs.
Pas pour le moment, puisque de toute façon, les joueurs qui font la différence au niveau de l'équipe de France, on le sait très bien. On l'a dit, on va recommencer. C'est Mbappé, c'est Griezmann. Déjà, rien que les deux-là. À partir du moment
mais,
où.
Mais ça passe pas toujours. Je veux dire, par exemple, Kylian Mbappé.
Ça passe à 90
minutes. Mais, attends, mais Kylian Mbappé, la finale. Et tous les autres, ils ont tous été nuls pendant 80 minutes. Griezmann était sur le terrain, Kylian Mbappé était sur le terrain.
Mbappé, le jour-là, a quand même marqué 3 buts, mais bon, on a tendance à pas.
Qui se souvient des matchs du mois de mars
De l'année dernière.
Mais non, mais je ne te parle 2018. Pas du mois de mars. Je te parle de la progression depuis la Coupe du Monde. On a progressé dans quel secteur?
Non, mais ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que ces matchs ont servi à quelque chose ou pas? Non.
Les matchs du mois de mars en 2018, tu t'en souviens, tu as perdu contre la Colombie, tu vas faire un match.
Et derrière,
tu gagnes. Donc, il n'y a pas forcément des conséquences directes.
Ça, c'est ça.
Non, mais c'est pas la question. C'est pour ça qu'on peut être, d'accord avec Olivier et être d'accord avec ce que dit Bernard. Parce que finalement.
Oui, parce que Bernard ne répond pas à la question.
Bernard, il dit qu'il y a quand même des raisons d'être inquiet.
Non, la question, c'était pas est-ce que doit être inquiet, est-ce que ce
mais
match
il dit autre chose,
est-ce qu'on va les oublier?
Non, mais parce que.
Oui, on va les oublier.
Non, mais il dit qu'il y a aussi des raisons.
Il n'y a rien à en tirer, quoi.
Non, mais il dit rien d'abord. Mais enfin, moi, je pense que. J'accorde pas une grande importance à ces matchs-là, parce que, par exemple, sur le dernier match contre le Chili, si vous regardez la première mi-temps, sur les 11 Français, quel était le meilleur joueur? Youssouf Fofana, on est à peu près tous d'accord. C'était le seul qui joue pas une Coupe d'Europe parmi les joueurs d'équipe de France. Le seul. Donc. On peut comprendre que effectivement les mecs se géraient. Deschamps a pas fait tous les changements. Rabiot est pas rentré parce qu'il avait, ça faisait je sais pas combien de temps qu'il avait pas joué. Il avait des petites douleurs musculaires. Il l'a préservé. Bon, moi j'en tire pas une grande conséquence. Par contre, je tire des conclusions d'un peu de l'enchaînement de novembre à mars.
Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez tiré là comme fil là?
Eh ben moi je trouve que défensivement, on n'a pas de réponse sur. Quelle sera la charnière titulaire indiscutable aujourd'hui? On sait, il n'y a pas une charnière indiscutable qui se dégage comme pouvait y en avoir sur les précédentes éditions de phase finale.
C'est pas ou pas Mécano Colaté?
Bah peut-être, mais ça peut être ou pas Mécano Lucas Hernandez aussi. Et à un moment donné, Deschamps voulait mettre Lucas Hernandez.
Dans les 10 derniers matchs, c'est 10 charnières différentes.
Il voulait mettre Lucas Hernandez axe gauche aussi. Mmh. Il avait cette idée-là. Il y a Pavard qui arrive. Peut-être que Pavard peut aussi jouer parce qu'il fait quand même une bonne saison avec l'Inter Milan. Et je suis. Enfin, c'est peut-être récurrent, mais moi je suis très inquiet du point de vue des latéraux. Damien, on n'est pas un pays qui forme des latéraux.
Damien, vous allez plus vite que moi, mais justement, on avait préparé un petit truc. On a regardé depuis les matchs de septembre, les Français ont disputé 10 matchs. 8 matchs, ils ont encaissé 10 buts. Et un seul clean sheet, c'était contre Gibraltar. Ok.
C'est ça.
Le journaliste qui a préparé l'émission, Paul Giffard, il débat, a revu les 10 buts et a détecté une faiblesse. Les fameux latéraux français, parce que sur les 10 buts concédés depuis septembre, il y en a 5 qui ont été suite à une attaque sur le latéral, 4 côté droit, celui, on va dire, occupé par Jules Koundé ou Klaus, 1 sur le côté gauche, c'était hier, et c'était Théo Hernandez qui était le latéral. Alors ça, est-ce que c'est une faiblesse, là? Et les équipes le savent, hein. Joue l'équipe de France, t'attaques.
Non, mais c'est une vraie faiblesse structurelle, je suis désolé.
Et
aujourd'hui, c'est un peu comme s'en prendre à Florian Maurice pour les Jeux Olympiques, quoi. Là, s'en prendre à Deschamps sur le problème des latéraux, ce serait un peu faire fi de la responsabilité des structures fédérales et des clubs pro aujourd'hui qui ne font rien pour former des latéraux. On ne forme pas de latéraux en France. Ça n'existe pas.
Il y a 2 semaines, quand Didier Deschamps repeignait la note d'étienne de Hubert Fournier, puis un peu plus tard dans la conférence de presse, il dit mais ça, c'est pas des débats. Moi, j'aimerais lancer un débat. C'est pourquoi finalement, dans le football français, il y a une pénurie de latéraux. On ne forme plus derrière latéral. Raymond, je me retourne vers vous. Comment ça se passe? Personne chez les jeunes, c'est pas un poste qui fait rêver, latéral?
Je me souviens pas dans toute la formation, dans tout ce qu'on a fait, qu'il y a eu une politique en disant cette année, à partir de maintenant, on forme des latéraux.
Ouais.
En général, les latéraux,
c'est les anciens attaquants
qui, petit à petit, en fonction des catégories, descendent et deviennent des défenseurs. Les vrais défenseurs, c'est les centraux.
Ouais.
C'est eux, ils ont la fonction. Mais les côtés, c'est des anciens attaquants milieux qui reviennent.
Mais là, il n'y a pas de formation. On se pose la
question. On peut les faire travailler quand on les a.
Tu sais quoi, j'en ai parlé ce matin avec un éducateur. J'en ai parlé ce matin au téléphone avec un éducateur de Toulouse qui me dit. On n'a pas le temps là.
Non, allez-y.
Il me dit le problème, c'est que c'est les clubs. clubs, les clubs professionnels, à ces postes-là, ils sont tellement dominants dans des championnats de U13 jusqu'à U17. Ils dominent tellement que les latéraux ne défendent jamais. Ah ouais. Ce sont des joueurs qui ne savent pas défendre. Et qu'est-ce que font les sélections nationales, les sélections de jeunes ? Est-ce qu'ils vont chercher des... Est-ce qu'ils mettent des latéraux au poste de latéraux ? Non, ils mettent des défenseurs centraux. C'est que des défenseurs centraux. Et c'est un vrai problème.
Dans quelques minutes, on revient sur cette discussion passionnante. Est-ce que c'est un match du mois de mars qui était des matchs difficiles, voué à l'amnésie ou pas ? On en reparle. Avec Bernard, j'ai l'impression qu'il y a 2-3 arguments qui vont sortir. Allez, à tout de suite. Refusé. Nous faisons le bilan des matchs de mars de l'équipe de France. Un bilan, on va dire, en mois de mars, un rassemblement difficile, qualifié difficile par Didier Deschamps, qui s'est expliqué. Les joueurs se sont gérés. J'ai été obligé aussi de se gérer. Il y a eu un duel entre Olivier et Bernard. On était sur le poste des latéraux. Je me suis intéressé sur les résultats de l'équipe de France. Et puis, qu'est-ce que ça vaut, finalement, comparé aux autres grands pays qui vont disputer l'Euro, hein, voilà, ce rendez-vous du mois de mars. On s'est fait un petit classement comme ça. Bah, vous allez voir, dans ce classement, dans le championnat, donc, avec 2 journées, la France se retrouve, elle n'est pas larguée. Hein. Elle est en milieu de tableau avec le Portugal à égalité. Victoire, une victoire, une défaite. Pour le Portugal, c'est une victoire contre la Suède et une défaite contre la Slovénie hier. Et à l'honneur, l'Allemagne, victorieuse de ces deux matchs. La France, hein, on s'en rappelle, amèrement. Et puis, les Pays-Bas. L'Italie compte également 2 victoires.
Hein,
L'Italie. Non, c'est l'Allemagne victorieuse de la France et les Pays-Bas.
D'accord. Mais vous ne mettez pas les Pays-Bas dans votre
classement. Non, mais attendez, les Pays-Bas, on va en reparler, vous inquiétez pas, c'est produit. L'Italie à égalité, elle compte 2 victoires, s'il est vrai, contre le Venezuela et l'Équateur. La Croatie montre sa stabilité. En queue de peloton, il y a l'Espagne, l'Angleterre, présentée aussi comme les favoris.
L'Angleterre avec 2 éléments majeurs absents.
C'est vrai. À l'Euro, en juin, voici le programme. France, 17 juin contre l'Autriche. Le 21 juin, ce sera les Pays-Bas. Et le 25 juin, ce sera contre la Pologne. Virginie, qu'ont fait les adversaires des Bleus lors de ce rassemblement de mars? On va commencer pas tout de suite par les Pays-Bas, vous devez l'apprendre. Mais l'Autriche.
Non, j'ai fait dans l'ordre des concurrents de la France. Donc, carton plein pour l'Autriche avec d'abord une victoire 2-0 contre la Slovaquie. C'est Sabitzer qui ouvre le score en première période. Baumgartner va doubler la mise en seconde. Et puis un festival 6 buts à 1 contre la Turquie avec entre autres un triplé de Grigoric. Alors, le milieu offensif de Clermont et de cette équipe d'Autriche, Mohamed Cham, est convaincu qu'ils peuvent être la bonne surprise de cet Euro. C'est ce qu'il a dit à RMC. Ouais. Je pense clairement que nous pouvons rejoindre les huitièmes de finale. Je suis confiant en moi et en mon pays. Nous avons de bons joueurs qui jouent en Allemagne et partout dans le monde. C'est un groupe difficile, mais tout le monde a sa chance. Ouais.
Qui veut commenter sur l'Autriche? Vous avez des trois demi sur l'Autriche?
Ouais, c'est... Bah, ils n'étaient pas au complet. Au mois de mars, ils avaient.
La faiblesse aussi de la Turquie. Il sait très bien, ils ont marqué, mais en seconde période, la Turquie s'effondre complètement. Donc il faut voir
leur équipe type quand même.
Comment?
Oui. L'Autriche, il en manquait 2-3 joueurs importants.
Mais le visage de la Turquie était très très faible, surtout en seconde période où ils s'effondrent totalement. Mais bravo à eux d'avoir gagné.
Après, ils peuvent se qualifier. Vu qu'il y a les meilleurs troisièmes, et c'est largement possible avec la Pologne.
Le deuxième match, ce sera le 21 juin, c'est l'été et c'est les Pays-Bas.
Les Pays-Bas, ça a bien démarré pour les Pays-Bas avec un 4-0 contre l'Écosse. Reinders ouvre le score, puis Wijnaldum, Weghorst et Malen ferment la marche. Plus compliqué ensuite face à l'Allemagne où ils perdent 2-1. Mais ce n'est pas la défaite qui a le plus inquiété le sélectionneur Ronald Koeman avant l'Euro. C'est la règle des 23 joueurs. Ne pas pouvoir prendre 26 joueurs est absurde. Je trouve ça étrange que lors des 2 derniers grands tournois, nous pouvions le faire et maintenant, on ne peut en sélectionner plus que 23. J'espère qu'à l'UEFA, ils écouteront les gens du football et qu'ils ne s'entêteront pas à faire ce qu'ils pensent être juste. C'était son petit coup de gueule.
Bon, 23, 26, des infos sur les Pays-Bas aussi. Vous avez des petites...
Non, mais déjà, Koeman, il a du mal à en trouver 11 pour faire son équipe de départ et asseoir son système de jeu, parce que sur les deux matchs, l'Écosse, ok, gagne 4-0, mais ils prennent 13 tirs, 2 tirs sur les montants, 2 tirs sur les montants, et c'est, ils font un tiers cadré en première mi-temps, ils mènent 0. Contre l'Allemagne, un tiers cadré en première mi-temps, ils marquent. Je veux dire, le contenu des matchs, des deux matchs des Pays-Bas, c'est quand même très inquiétant.
Non, c'est assez...
ça a été très...
Moi, j'ai commenté donc Pays-Bas-Écosse.
J'ai regardé les deux matchs.
Justement, c'est très trompeur. Hein. On a l'impression que...
flatteuse.
Ah, mais complètement. Voilà. On a l'impression que les Pays-Bas se baladent, mais c'est totalement faux. Ouais. Parce que face à l'Écosse, par exemple, ils doivent être largement menés à la mi-temps. Bon, les Écossais sont pas très rallyes, c'est autre chose.
Sur le contenu des matchs, on peut nous faire le reproche, nous, à l'équipe de France du Didier Deschamps, non? Enfin, le contenu, leur
oui, mais non, mais, ah, mais je, ah, bah, je vous rejoins là-dessus.
Parfois, on ne peut pas
rire. Malgré ce qu'a dit Karine sur l'Autriche, sur les deux matchs de l'équipe d'Autriche, on sent quelque chose, une vraie équipe collective. Mmh. On sent un bloc fort qu'on n'a pas ressenti, je regrette, avec l'équipe de France.
J'ai pas dit que l'Autriche n'était pas forte, j'ai dit que la Turquie s'était effondrée en seconde période. Rejoins.
Mais ce qui n'empêche qu'on sent un vrai pouvoir collectif des Autrichiens, ce qu'on n'a pas ressenti. Alors moi, je vous le dis tout net, face des Pays-Bas, face à l'Écosse, et encore moins avant-hier face à l'Allemagne. Mmh. Et puis chez nous, il nous manque quelque chose quand même là. Dans ces deux matchs-là, quoi. Juste sur ces deux matchs-là.
Dernier match, ça sera le 25 juin, ça sera face à la Pologne qui est sortie au tir au but, donc le Pays de Galles.
La Pologne qui a d'abord eu une demi-finale de barrage assez facile contre l'Estonie. Ils ont dominé, ils l'emportent 5 buts à 1. Lewandowski n'a quasi pas existé, si ce n'est sur cette passe décisive à la 70e pour le but du 3-0 signé Piotrowski. Il a été transparent en finale aussi. Personne n'a marqué, ça s'est fini au tir au but. Le sélectionneur Michel Probierz a préféré savourer cette qualif arrachée au forceps plutôt que d'accabler son attaquant ou de se projeter sur la compétition. Écoutez.
Inquiet pour Robert Lewandowski ? Non, du tout. Il n'y a que très peu de joueurs comme lui qui peuvent se sacrifier pour l'équipe comme il le fait. J'en suis très satisfait.
Raymond, on était en plateau déjà la semaine dernière. On avait les deux lauréats, c'était Pologne-Pays de Galles. Et on avait posé la question, c'est quoi le meilleur adversaire pour les Français ? Vous disiez les Gallois, vous, plutôt. Hein.
Non, moi j'ai dit la Pologne.
Ah, pour quelle raison ?
Parce que j'ai plus de copains polonais que gallois.
Si vous parlez de football, ça c'est là,
À la limite, au niveau sportif, on s'en fout.
Ah ouais.
Oui, je veux dire que le niveau de l'un ou de l'autre, normalement, c'est la quatrième équipe. Voilà, c'est celle qui aura le plus de soucis dans ce groupe-là. Donc, je n'avais pas de choix.
De soucis. Hein. Faites gaffe aux sushis parce que ça va lui dire.
Oui, mais les Polonais,
pas d'inquiétude.
Lorsqu'ils sont soit en Coupe du Monde, soit ces derniers temps, même au championnat de l'Europe, ils font jamais rien.
Non.
C'est très compliqué. Même là encore, là, contre le Pays de Galles, je vais vous assurer, ils ont ramé, je sais pas, je.
C'est pas baladé quand même quand on les a joués.
Oui, d'accord, mais quand même.
S'il n'y a pas de
gagné 2-0,
il
n'y a pas 2-0 quand même. Oui,
mais. Non, mais le contexte des matchs, Olivier, c'est pareil.
C'était pas du tout 2-0. C'était 3-1. S'il n'y a pas de domicile et de buts stratosphériques de sortie du but de Mbappé, je suis pas sûr qu'on les surcasse les Polonais. Mais comme on sera tous amnésiques demain matin, c'est vrai que sur les trois adversaires, vu les qualités quand même individuelles des uns et des autres, tu peux penser que la Pologne, c'est l'équipe la plus abordable.
Qu'est-ce qui se trame du côté de l'équipe demain, la une, on peut la regarder, Virginie ?
Libérez-les, ces joueurs, pour les JO. Évidemment, il semblerait que Rennes ne soit pas le seul club de Ligue 1 à mettre un frein. Les dirigeants de plusieurs clubs sont réticents à laisser leurs joueurs disputer le tournoi qui se passera du 24 juillet au 9 août prochain.
Il faut qu'ils mettent déclaré forfait. Il faut qu'ils changent la une.
Voilà. C'est quand même dingue l'ampleur que ça prend le foot dans les Jeux Olympiques. C'est ce que tu dis.
À Tokyo, ça prenait pas la même.
Ils sont sur vos traces, Olivier.
Mais tu sais pourquoi ?
Ils veulent tous faire comme Olivier Rouillet.
Ah non, tu as été éliminé en quart de finale.
Oui, c'est moi. Quand on a été champion olympique en 84 avec la formidable génération de Jean-Louis Zanon, on les a ni célébrés, ni on leur a donné une prime, ni rien, que dans son fichier. Mais entre-temps, Neymar les a disputés, Messi les a disputés, et donc Mbappé s'est dit, tiens, en termes d'image, c'est bien.
Mais finalement, il ne va pas les faire.
Donc, je vais disputer. Donc, aujourd'hui, le football, aux JO, c'est génial.
Après, s'il n'y avait pas eu autant de joueurs à exprimer leur volonté de faire les JO, comme Mbappé, comme Griezmann, comme Giroud, je ne suis pas certain qu'on en
fasse. Non, mais c'est plus important que la finale du 100 mètres.
Mes amis, nous allons jouer.
Parce qu'à la finale du 100 mètres, on est sur
paillettes. Raymond, vous avez les deux jokers.
Pourquoi j'ai moins de
parce que vous avez pris un rouge.
Mais c'est un scandale. J'ai gagné tous mes rouges.
Ben non, on va faire un quiz, mes amis, écoutez bien. Olivier, écoutez, parce que...
Qui a gagné la duel entre
Lyon et Rouillet ? Un quiz en l'honneur de Randal Kolo Muani, buteur hier contre le Chili. Kolo Muani m'a marqué un but cette saison, c'est le thème. Kolo Muani m'a marqué un but cette saison, c'est un gardien de but qu'il faut donc trouver.
Ah, d'accord.
On est d'accord ?
T'as pas mis le grec quand même. Ah non, il fait pas ce dessin.
Mais tais-toi, laisse-nous nous concentrer.
Attention, premier gardien à trouver... C'est Randall qui vous parle. Je connais très bien ce gardien.
Lafond.
C'est pas mal, Lafond, mais c'est pas celui-là. C'est mon seul but inscrit en C1. Contre qui, là ? Il a marqué.
Ah,
et contre qui ? Il connaît bien ce gardien.
Mais oui.
Allez, un autre indice pour deux points. J'inscris ce soir-là le but du break pour le Paris Saint-Germain.
Vous trouvez le nom du gardien ?
Ah ben oui, c'est le gardien qu'il faut trouver, je vous dis. Je viens de passer 8 jours avec lui, en sa compagnie.
Aïe, 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 on est nuls.
Mais vous êtes...
Areola.
Areola ? Bah non.
Maignan.
Mais non.
Qui dit Maignan ?
Éliminé.
Mais là, il est éliminé. Donc,
oui, mais qui dit Maignan ?
Maignan.
Voilà, un point d'épuisette.
C'est minable, Olivier.
Ah bah, j'y peux rien, moi.
Mais fais pas l'épuisette, en fait.
L'épuisette, j'adore.
Les ballons qui traînent.
L'épuisette, j'adore. Allez, il faut trouver un gardien de but. Je pense que Bernard a compris le jeu. Ok. Donc j'ai marqué, c'est Randall qui a marqué cette saison, il faut trouver le gardien. C'est mon premier but en Ligue 1 avec Paris, c'était mon premier but en Ligue 1 avec Paris. Vous souvenez la première fois où Randall a marqué en championnat ? Non. J'ai aussi délivré une passe décisive dans ce match. Mmh. Un but, Bizot. Une passe décisive. Comment ?
Bizot.
Marco Bizot.
Non, le Brest.
Le Brest.
Ouais, Marco Bizot, toi.
Ouais. Bah, oui, Bizot, bon, c'est
non.
Pas ça, quoi.
Ouais, non, c'est pas
quoi,
ça.
Pourquoi bah, il faut dire le prénom aussi.
Non, mais non, Bizot. Non,
c'est pas
Bizot.
C'est Bizot.
Ah, Bizot. Ah oui, toi, alors toi, tu prononces Bizot.
Bon, allez-y, là. Alors,
j'ai chanté à la fin du match. Et une chanson qui m'a valu un rappel alors.
Paul Lopez, non.
Paul Lopez.
Oui,
si,
mais oui.
Deux
oui,
points.
Le Parisien.
C'est le petit succès ce soir, oui, le Parisien, le Marseillais.
Yes.
Deux points pour Olivier Rouillet. Voilà, vous savez la chanson insultante pour les Marseillais.
Les Parisiens ont chanté ça ?
Oui. Dembélé, Kurzawa, Hakimi.
Excusez-moi, j'y pense pas tous les jours non plus.
Vous pouvez pas faire une photo. Là aujourd'hui, j'ai deux points, ils ont tous zéro.
Attention, mes petits, c'est la dernière.
Ah bah disons.
Mon but a permis de terminer le match sereinement.
Lafond.
Lafond, non.
Eh ben, bravo.
Claudio Bravo.
Hier.
Non. C'est les buts du score final, 3 buts à 1.
Eh ben, c'est quoi le mais je le connais pas, le la Sociedad, le gardien de but, machin, là, comment il s'appelle?
Non, c'est pas ça.
Ah bon,
j'ai
ça
fait
va.
Une Coupe du Monde avec ce gardien, pour 2 points. Et pour un point, quand on s'est affronté, il portait le maillot de Rennes.
Mandanda.
Mandanda. Ah oui, un point pour...
Ah non,
enfin, franchement, le thème
Mandanda. Mandanda. Allez, Pizette. Merci, Bernard Lyons. Allez, une dernière pour la route.
Une dernière. Donc, Olivier n'a pas le droit de jouer.
Oh bon. Olivier, vous êtes éliminé. Oh, le salaud.
Bien joué. Bien joué.
J'ai marqué alors que j'étais remplaçant.
Lafond.
Lafond, non.
Tu l'auras fait à chaque fois.
C'était le 7e et dernier but du match. J'ai eu 7 buts dans cette rencontre. Un match à 7 buts.
Mais arrête! Ah, mais c'est bon, je joue plus. Mais
il triche.
Mais je m'en fous, je veux pas qu'on m'aide, je veux jouer, c'est fou ça.
Ce soir-là, Ousmane Dembélé marquait enfin lui aussi.
Ah, bah oui. Là, je suis éliminé.
Arrête!
J'ai rien dit, putain!
C'est fou de toujours tricher comme ça.
J'ai rien dit.
Mais non, mais tu me l'as dit.
Mais non, c'est pas lui. Tant pis, je vous laisse gagner. C'est le gardien de Monaco, là, le nom vient m'échapper.
Il est désormais le gardien numéro 2 de Monaco.
Il joue plus.
Ah, mais c'est Ken!
Voilà!
Ken!
Voilà, Karine Galli, vous marquez.
Je m'en fous, j'ai pas envie que tu parles.
Voilà, ok, très bien. Bah, on en reste là.
Et j'ai gagné!
Et Olivier! Ce soir, il y a une victoire d'Olivier Rouillet. Allez, on vous embrasse.
C'est
magique. Eh, mes petits, regardez cette musique. Écoutez, écoutez cette musique. Écoutez. Imouvrini, puisqu'un ami corse va nous quitter, va rentrer sur son île de beauté. C'était François Césari qui était en régie. C'était sa dernière ce soir. On voulait lui faire un petit clin d'œil. On lui dire qu'on l'aimait beaucoup. Et on l'embrasse. Et puis, bonne deuxième partie de carrière, de vie. Seule de beauté. On vous embrasse.
Quantel